Vertigo, de 16h30 à 18h, sur la première.
Bonjour Philippe Monod.
Bonjour.
On va mettre le micro peut-être bien en face de vous.
Merci.
Là, parce qu'il faut encore faire quelques réglages, ajustements dans ce lieu, n'est-ce pas?
Merci de m'inviter.
Mais je vous en prie, merci d'être là. Deux interviews à la radio en 20 ans, c'est ça?
Oui, le premier, c'était en direct aussi, avec ouais. Daniel Janet, à Genève.
C'est dire si ça va.
Ouais, je me rappelle plus trop, mais voilà.
C'est... Nous non plus, mais ouais. C'est pas très grave, il n'y avait pas de podcast à l'époque, donc on ne pouvait pas se rattraper facilement.
J'étais comme déjà assez détendu.
Oui, c'est ça. Hyper relax, totalement décontracté.
Oui, oui. Un iguane.
Oui, sur la plage, au soleil,
voilà.
Pour se chauffer.
En Corse.
Voilà. Vous avez lâché le mot, la Corse, vous êtes moitié Corse par votre mère.
Oui.
Et moitié chaudefonnier par votre père.
Oui.
Mélange d'étonnant.
Oui. On peut le dire.
C'est du caractère, tout ça.
Ah oui.
Oui, on peut le dire parce que, enfin, je suis né avec cette maman corse et ce papa chaudefonnier, et se sont en plus retrouvés à Paris.
Oui.
Donc dans un bal, et puis ils sont tombés amoureux, et voilà, je suis né quelques temps après, avec, je dirais, un petit cornet surprise. Dans ce cornet surprise, il y avait une marionnette. Avait pleine de cheveux frisés et cette marionnette avait un petit nez en trompette, une veste multicolore et c'était mon oncle. Voilà, mon oncle artiste et avec sa femme Eliane Guyon qui était ma marraine, qui faisait du mime. Voilà, je suis né avec ce cadeau-là d'être déjà avec le nutriment de l'art.
Et de l'artiste en devenir.
Voilà.
Ouais.
Avec, par ailleurs, mon père, qui était un chercheur, ingénieur, mathématicien, une moustache et puis assez carré. Donc, voilà, je me suis dirigé quand même un peu du côté de mon oncle. Puis il m'a énormément ouvert de portes et c'est pour ça peut-être que je fais la peinture.
Vous vous retrouvez dans ce studio aujourd'hui, en fait.
Voilà, en fin de compte, c'est ça aussi. Ouais.
Et votre mère donc était corse, donc elle était fière et droite, c'est ça?
Oui, elle était des montagnes.
Ouais. Parce qu'il faut distinguer, il y a la Corse du littoral et la Corse des montagnes.
Non, là c'était Corcia, c'est les hautes montagnes, c'est la lune un peu, c'est très très rocailleux. Donc des caractères très forts. Et puis, elle n'avait pas de profession particulière, mais elle aimait la poésie, elle écrit, elle était très lettrée, comme ça, elle aimait beaucoup lire. Voilà. Donc j'ai eu de la chance, des parents bienveillants et un oncle qui m'a un peu dirigé.
Florence.
Ah non, mais continuez, Philippe.
Oui, voilà.
Non, mais c'est juste, vous parlez de votre oncle, justement, et moi j'aime bien les histoires de portes. C'est quoi une des premières portes qu'il vous a ouvertes?
Alors, je pense que c'est l'amour de l'art, parce que son atelier, c'était que des marionnettes, et puis lui, il avait ses mains comme ça, un peu comme des ceps de vigne, et puis il travaillait ses marionnettes, il fabriquait des marionnettes, c'était, pour un petit enfant, c'était magnifique. Et voilà, c'est lui qui, c'est une passion comme ça du lieu aussi, et puis de la personnalité. Ça m'a énormément dirigé. Et après coup, on a pu travailler aussi un petit peu ensemble dans le théâtre et travailler avec Peter Brook à l'époque. Et j'ai pu aller à Persepolis et faire du théâtre un petit peu avec lui pour l'aider. Et voilà, c'est une partie de ma toute jeunesse. Voilà.
Et que faisiez-vous avec lui, derrière la scène ou sur la scène?
Alors, c'était des travaux de décor, j'ai travaillé un petit peu au théâtre de Vidi, j'entrais un tout petit peu, j'ai travaillé avec Dominique Caton, au théâtre Amstramgram, tout ça, c'était une toute première partie de ma vie, au fait, artistique. Puis après, je me suis lancé dans la peinture, dans le dessin d'abord, avec la mine de plomb, la sanguine, et puis ensuite, assez vite, avec le pastel. Et cette technique m'a un peu happé, comme ça. Ces pastels qui sont si délicats, si fins, et des fois qui se cassent même avant qu'on les pose sur le papier.
Et tout cela en autodidacte?
Oui, en autodidacte, mais j'ai quand même passé pas mal de temps dans les beaux-arts, mais d'une façon, beaux-arts de Genève, mais libre à faire des plâtres, dessiner des plâtres, des animaux empaillés, apprendre un petit peu les proportions, faire un peu des bases, comme ça, des gammes.
Et où est-ce que l'on retrouve ce travail-là dans vos travaux actuels qui, on en a quelques exemples sous les yeux, sont assez loin finalement du travail basique que l'on fait lorsqu'on apprend les proportions aux Beaux-Arts, fût-ce à Genève ou ailleurs, où là on est face à quelque chose qui est à la fois figuratif et en même temps ne l'est pas. Enfin, c'est très étrange. On a l'impression de distinguer un visage, une tête, une chevelure peut-être, et puis en fait on n'est pas tellement sûr de ce que l'on voit.
Oui, alors... Pendant une longue période, j'ai fait des pastels très, où je pouvais passer plusieurs mois dessus, ou en tout cas plusieurs semaines. Et à un certain moment, j'étais un peu fatigué de faire ça. J'arrive au bout de cette période-là de travail. Et j'ai eu une pause. J'étais un peu en panne, un peu... dans une sorte de désert, comme ça. Et par rapport à cette exposition, il y a eu un déclencheur. Et ce déclencheur, c'était en Corse. Beaucoup de choses se passent en Corse. Mais en Corse, à un moment donné, j'ai été pris par une vision, par un événement. C'est l'arrivée des palmiers morts. Il y a une petite bête qui rentre dans le palmier et qui va dans son cœur et en quelques semaines, le palmier, même s'il a plusieurs dizaines d'années, voire s'il a 100 ans, il meurt en 15 jours. Donc le palmier mort, c'est véritablement un tronc qui monte, qui monte, qui monte, et puis après, il n'y a plus rien. Il y a peut-être l'esquisse d'un mognon avec une palme qui est... qui est séché et qui est dans un équilibre instable. Et puis ce palmier mort, je l'ai beaucoup observé, je l'ai beaucoup regardé, et au bout d'un certain moment, il y a eu un écho en moi. Je vous explique ça par rapport à l'exposition. Ouais. Il y a eu un écho en moi, c'est... que j'ai trouvé le palmier mort en moi. Il y avait un palmier mort qui était en moi. Et ce palmier mort, ça m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit, c'est quoi ce palmier mort en moi ? C'était, en fin de compte, une énergie perdue. Et puis alors, ça m'a fait redémarrer dans la peinture. Tout d'un coup, ces palmiers, le mien, mon palmier mort et les palmiers dehors, commençaient à dialoguer. C'était impressionnant. Il y avait des étreintes de palmiers morts. Et tout d'un coup, voilà, quelque chose s'est passé véritablement en moi et a passé à travers la peinture. C'est pour ça que je ne peins pas des palmiers morts, mais je peins cette énergie retrouvée parce que à un certain moment, j'ai pu la définir en moi-même. Et ça m'a fait repartir dans une énergie de vie. Je me suis remis en vie dans ma peinture. Ça a été le déclencheur. Et dans l'atelier, j'ai commencé un nouveau cycle de travail. Et c'est toujours peindre l'énergie de vie plutôt que faire un beau tableau.
Voilà. Ce qui vous traverse, les énergies qui vous traversent, c'est ça que vous tentez de reproduire sur la toile.
Oui, d'une certaine façon, c'est une énergie qui nous traverse, mais c'est une énergie profonde. C'est pas juste.
Oui, c'est pas juste une inspiration.
Un muscle qui agit avec un pinceau. Ouais. Et puis non, c'est quelque chose de très intérieur, de très de un peu d'inaccessible. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, ça apparaît, mais parce qu'on arrive au deuil, on arrive à la fin d'un cycle, et ça rebondit.
C'est joli quand vous en parlez, en tout cas, je trouve. C'est touchant de vous entendre parler de ce palmier mort dans lequel vous vous reconnaissez. C'est ce palmier mort, on dirait qu'il ressuscite de la vie chez vous.
Oui, c'est un... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de la mort et de parler aussi... par rapport à soi-même, de nos faiblesses ou de nos manques d'énergie. Parce que il y a quelque chose qui en ressort aussi de cette histoire-là, c'est que, en fin de compte, si je vous regarde, je vois une personne, Puis cette personne, c'est une preuve de vie. Ou si vous, vous me regardez, vous voyez Philippe Monod qui parle, il bouge, hein, donc il vit. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ou quelqu'une en nous? Est-ce
qu'il y a vraiment? Pas forcément, clairement.
Voilà, voilà.
On est parfois un peu mort à l'intérieur.
Mais voilà.
Ou des troncs vides.
C'est un peu ça que la peinture peut m'amener. Insister le regard pour que cette partie intime puisse tout d'un coup se révéler dans une œuvre, dans un tableau, dans une écriture. Ou...
Est-ce que ce genre de moment de panne, est-ce que ça arrive tout au long de plusieurs fois dans une carrière? Ou c'était la toute première fois que ça vous arrivait, Philippe? Ce moment tout à coup de stase où on ne sait plus très bien que faire.
C'était un peu la première fois. Bien sûr qu'il y a des moments où on est un peu perdu parce que c'est un travail, c'est pas une commande. La peinture n'est pas une commande. Donc on n'a pas quelque chose à faire. On fait, on réalise quelque chose, puis ensuite ça peut être montré ou même voire vendu. C'est le but, c'est le partage. Mais c'est difficile quand il n'y a pas de commande. On doit faire d'abord. Donc il y a toujours ce doute, il y a toujours cette remise en question aussi personnelle. Pourquoi je fais ce travail? Est-ce que je m'endors dessus? Est-ce que ça a un sens par rapport à moi? Il faut que ça soit quand même collé, la peinture, avec la personne qui l'a fait. Il faut qu'il y ait un rapport. Et pour cela, après, il y a le rapport avec aussi les autres. C'est pas quelque chose qui est une décoration, quelque chose qui nous... Voilà, qui embellit ou...
La fameuse nécessité intérieure dont parlait Kandinsky, peut-être bien.
Oui, ouais. C'est ça.
On a évoqué la Corse, nous. On va y rester en Corse.
Merci.
Merci,
je vous en prie.
Il nous ramène dans le maquis. Hein.
Oui. Je vous ramène un peu dans le maquis, dans les odeurs, dans voilà, tout ce qui fait...
Les odeurs d'immortel.
Immortel, exactement, écoutez.
Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà mi dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà.
C'est le trio Soleil Donat, c'est vous qui avez amené ce disque, Philippe Monod, avec Bella Ciao. C'est une amie à vous, elle est corse, elle a monté ce trio, alors fait amusant, mais juste pour nous, elle s'appelle Patrizia Poli. C'est pas celle qui travaille avec nous au sixième étage, hein, on est d'accord?
Et qui est merveilleuse aussi.
Absolument, mais qui est
qui
pas corse.
Être corse.
Oui, pour elle, pour elle. Ouais, hein, italienne, c'est bien.
Voilà, oui, c'est un début. Il faut bien commencer quelque part.
Elle est sublime. Hommage à Patricia Poli.
Mais absolument. Ah. Alors, ce trio Soleil Donna, vous avez voulu amener ce disque-là. Pourquoi, Philippe Monod ?
Je suis très attaché à l'artiste Patricia Poli. J'ai beaucoup travaillé dans mon atelier avec sa musique, ses disques, un peu même en boucle parfois. Donc, et puis, un jour, elle m'a été présentée par une amie et je lui ai proposé de venir en Suède pour une exposition, et puis elle est venue pour faire un concert, un récital de chant au piano. C'est un très très bon moment, voilà. Et on est resté en contact, on se voit régulièrement en Corse.
Et est-ce qu'elle retourne en Suède de temps en temps, ou est-ce que...
Je ne sais pas.
Ah. C'est Corse-Suède, je sais pas.
Oui, mais... en tout cas, on avait une petite laine, parce qu'il faisait même un peu frais là-bas.
Vous m'étonnez.
Et on mange très très tôt, alors qu'en Corse, on mange plutôt assez tard.
Ouais. Donc elle a dû être surprise, j'imagine. On le disait, vous êtes discret dans les médias, Philippe Monod, mais fidèle, fidèle notamment à la galerie d'Ittesheim qui vous accueille. Le vernissage, je le rappelle, a lieu le 1er septembre. Votre première exposition là-bas, c'était il y a 20 ans. Le patron de la galerie a écrit sur vous également. La fidélité, c'est un mot qui a un sens très fort chez vous ?
Oui, c'est même plus que ça. C'est un chemin, c'est un fil. C'est sans ça, je pense que on s'éparpille, on a plus de contacts, on perd les contacts. Et là, je suis très honoré d'exposer pour la cinquième fois dans cette galerie. François Ittesheim et Patrick Maffay ont eu un regard très attentif, très beau sur mon travail. J'avais le trac. Et puis l'exposition, voilà, elle a été prévue et ça m'a fait un bien fou. Donc la fidélité en amitié, c'est aussi justement d'accepter que des personnes puissent avoir tout d'un coup un chemin un peu encombré, sans juger. Mmh. Et j'ai senti véritablement une ouverture très grande, et puis ça m'a fait énormément de bien.
On ne le dit pas assez souvent, mais c'est vrai que l'artiste a besoin de soutien, y compris les galeristes. Comment ça se passe, la relation avec les galeristes ? Comment ça se passe lorsqu'on vend un tableau ? Est-ce qu'on est heureux de le vendre, ou est-ce qu'au contraire, on a un petit déchirement parce qu'il s'en va et qu'on ne le verra peut-être plus ?
Alors ça, c'est chaque artiste qui a son ressenti. De mon côté, je suis content de vendre.
Oui.
Parce qu'un tableau, je ne suis pas attaché à mes tableaux. Donc, s'ils sont vendus, pour moi, c'est très bien. Ils vivent ailleurs, ça bouge. Mais je ne suis pas... Non, je n'ai pas cette relation de vouloir garder mes tableaux. Alors, non, je préfère les tableaux des autres, chez moi. D'ailleurs, il y a beaucoup de tableaux d'autres artistes, mais peu de mes tableaux.
Vous faites des échanges entre artistes ?
Oh, ça peut arriver. Ça...
Mais vous gardez des traces quand même de ce que vous avez créé ?
Oui, j'ai...
Lesquelles ? Vous photographiez ou vous les reproduisez ? Comment vous faites ?
Non, j'ai quelques traces, mais je ne suis pas très organisé. Il faut dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Mais les traces, elles sont dans des cartons et puis des photos. Mais voilà, pour moi, ce qui est important surtout, c'est les tableaux à venir. Et puis, regarder les tableaux que j'ai, les anciens tableaux, je les regarde avec beaucoup des fois, ils m'étonnent parce que j'ai presque un peu oublié que je les ai peints comme ça. Donc, c'est une relation un peu comme dans un album de photos. Je sais pas, tout d'un coup, on reconnaît, c'est chaleureux. Voilà, j'ai.
Et vous vous reconnaissez dans vos tableaux, les tableaux du passé ?
Oui, oui, parce que dans l'ensemble de ma vie, j'ai toujours été très proche de... J'ai toujours peint ce que la personne...
Que vous étiez ?
Voilà, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. C'est très collé. C'est pas psy. C'est pas une recherche, mais c'est très proche.
C'est pas de l'art-thérapie ?
Non.
Voilà. Est-ce que parfois, quand même, il y a des tableaux, vous les voyez, vous dites « Ah oui, tiens, je me souviens, cette période, pas terrible », et vous le retournez ?
Ça m'est arrivé même d'être violent avec des tableaux à les déchirer ou les éliminer. J'ai pas mal éliminé aussi, surtout les dessins, les croquis. Ça, c'est vrai qu'il y a une grosse poubelle et puis ça part tout d'un coup à la poubelle. Il faut apprendre
à séparer,
séparer, à enlever. Quand il n'y a pas la vie, il faut l'enlever parce que c'est triste.
À qui montrez-vous votre dernier tableau, la première personne qui le regarde, qui le contemple, à part vous?
Peu de monde. Je suis très discret, très secret. Même ma compagne ou mon fils ne rentrent pas à l'atelier. C'est un lieu un peu particulier. C'est en Corse, dans ma petite bergerie, il n'y a pas d'atelier, alors je mets un scotch au sol pour délimiter l'endroit où je travaille. J'ai besoin d'être un peu... J'ai
contenu.
Besoin de, voilà, j'ai
Mais
besoin...
Mais c'est vraiment interdit.
On ne passe pas le scotch.
Bon, s'il y a une urgence. Non, mais oui, c'est l'atelier, c'est vraiment un lieu que j'ai beaucoup de peine à partager. Le lieu. Je peux partager beaucoup de choses, mais le lieu...
Pourquoi ?
Je pense que au moment où on se met à peindre, il y a un moment de, il y a une sorte d'abîme, il y a un espace qui est complètement vide, creux. On prépare ses couleurs, en tout cas dans cette dernière exposition, ces derniers tableaux qui vont être exposés à Neuchâtel. Je me prépare pas à peindre. Je me mets dans une condition où je vais faire presque une pratique de peinture. Je me mets pas à peindre comme ça. Non, je me mets je m'échauffe un peu, comme en aïkido, on pourrait faire les échauffements. Et ensuite, après, je mets mes pots mes pigments, mon liant. Et puis, à un certain moment, comme ça, quelque chose se passe. Mais pour que ça puisse être possible, il faut sentir autour de soi, pour répondre à votre question, il faut sentir autour de soi aucun regard. Mais même aucune forme de regard, même si quelqu'un passe ou derrière même le rideau, ça devient un peu gênant. Il faut vraiment, c'est parce que on est dans une sorte de, pas d'explosion, mais on se fond comme ça avec le néant. À un moment donné, puis il se passe quelque chose sur la toile. Mais là, le regard ne peut pas être vraiment bien accueilli à ce moment-là. C'est pour ça que l'atelier, c'est un peu un laboratoire un peu bizarre, en tout cas pour moi. D'autres ouvrent l'atelier, ils mangent. Mais moi, je ne peux pas faire ça comme ça.
C'est très intime, en fait.
Oui, ouais. C'est ma petite... c'est mon petit chez-moi, je ne sais pas, intérieur, je ne sais pas comment dire ça.
Philippe Monod, vos œuvres récentes, vous les présentez donc dans cette galerie à Neuchâtel, Dietesheim et Patrick Maffay, qui sont des gens qui visiblement vous sont fidèles. Vous êtes aussi fidèle à ce duo qui guide les expositions de cette galerie. On a évoqué pas mal de choses de votre parcours. J'aimerais qu'on parle quand même de votre technique, parce que moi je suis toujours très fasciné. Florence pourrait expliquer ça mieux que moi, mais je vais quand même...
Par le pastel.
Oui, par le pastel, cette superposition des couches, et ce qui fait que jamais rien n'est gribouillé ou superposition, justement. Mais
c'est toujours virtuose, le pastel,
oui, c'est vraiment virtuose.
Ou expérimental. Vous êtes de quel côté? Assez virtuose, hein, Philippe?
Oui, alors peut-être, je ne sais pas virtuose, mais en tout cas, j'ai pratiqué le pastel pur, et parfois aussi le pastel gras et le pastel sec ensemble. Et ça faisait encore un autre travail, parce que le pastel sec, c'est une poudre. Le pastel gras, il a un surplus de gras, et le pastel sec, parfois, il est un petit peu encapsulé dans l'huile du pastel gras, et le tableau, il bouge par lui-même, par le fait que le pastel sec est contaminé un tout petit peu par le gras du pastel gras. Et puis ça crée tout d'un coup des mouvements, des vagues qui sont un petit peu, qu'on ne contrôle pas. Mais ça, j'ai beaucoup aimé mélanger les deux. Je suis pas forcément un pastelliste pure, vraiment de... Non, j'aime bien utiliser le pastel avec aussi d'autres pastels, enfin, voilà.
Mais au fil du temps, ça veut dire aussi que ça continue à bouger, une œuvre de vous, Philippe Monod ?
Je pense qu'elles finissent par se stabiliser.
Ouais, quand même.
Mais j'espère qu'elles bougent autrement, c'est-à-dire par le
l'énigme.
Voilà, l'énigme que j'aimerais toujours amener dans mes tableaux.
Alors, puisque vous parlez d'énigme, allons-y, si vous le voulez bien, Philippe Monod. Qu'est-ce que vous voulez dire ou montrer ? Parce que je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission, on a le sentiment d'être face à quelque chose de très figuratif et de très limpide, au fond, lorsqu'on regarde le tableau au premier coup d'œil. Et puis, tout à coup, ça se complexifie, on se dit « Ah non, c'est pas ce que j'ai vu la première fois ». Et plus on regarde, plus c'est complexe et plus on y voit encore d'autres choses.
Mm-hmm. Oui, ben c'est probablement une... En ce moment, dans cette nouvelle exposition, ces nouveaux tableaux, ce sont des tableaux qui sont peints par couches, mais sans repentir. C'est-à-dire, je n'efface rien. C'est des couches superposées qui peuvent se faire assez rapidement par un pinceau, par une brosse. Mais le repentir, il n'y en a plus. C'est un peu la définition de ce nouveau travail, c'est d'éliminer tout repentir. Et c'est une fraîcheur. Alors, je peux pas travailler 8 heures par jour, parce que je finirais par me fatiguer, et puis le tableau...
Ils n'ont pas tiré.
Voilà, ça tombe après, c'est ça meurt. Non, c'est rester tout le temps attentif à ces couches, et d'être tout le temps frais. Et d'amener... quelque chose par-dessus, mais sans enlever ce qu'il y a dessous.
Le repentir, c'est ça. C'est lorsqu'on enlève, vous ne voulez plus enlever.
C'est parce qu'il y a des gens qui gomment, mais ça fait partie du travail. Mais le repentir, c'est quand on n'est pas satisfait, que c'est la grisaille un peu. Voilà, on essaie de cacher quelque chose. Voilà, c'est ça le repentir.
Donc là, vous ne cachez rien ?
Non.
Vous le disiez, Philippe Monod, que vous ne pouvez pas travailler 8 heures sur un même tableau de suite. Mais du coup, est-ce que vous commencez plusieurs tableaux en même temps ?
Non, je n'ai jamais vraiment fait ça comme ça. Mais actuellement, je peins des tableaux sur toile et puis aussi des œuvres sur carton, sur papier. Donc là, il peut y avoir simultanément un travail qui se fait. Mais... en principe, c'est vraiment chaque pièce qui est commencée, qui se termine à l'atelier.
Il y a une phrase de vous que j'ai lue dans le peu de documentation qu'on a sur vous. Quelqu'un qui a rapporté vos propos lors d'une traversée en voilier vers la Corse. Votre fils avait le mal de mer et vous lui avez dit « tu dois laisser rentrer le cosmos en toi ».
Oui.
Ce qui m'a frappé d'une part. Et ensuite, vous parlez beaucoup de mise en image de vibrations. Oui. Comme si voilà, vous étiez connecté quelque part et que ça devait sortir à un moment ou à un autre.
Oui, alors ça c'est dans un texte de Guido Albertelli, philosophe, qui m'a fait un texte à la dernière exposition. Effectivement, ça l'avait marqué parce qu'on était dans une mer épouvantable, avec des vagues terribles, on était attaché à un fil de survie. Et puis je voyais mon fils qui était blanc et qui était en train de... Je me demandais même s'il allait pas passer à l'eau, je sais pas, il y avait vraiment... Et puis je lui ai dit, mais prends le cosmos en toi, prends tout dans ton ventre pour essayer justement un peu d'ouvrir, enfin de... ou de se concentrer dans quelque chose. Mais ça n'a pas marché. Les éléments de la grande nature m'intéressent parce que j'ai fait pas mal d'aïkido et par l'aïkido, j'ai un petit peu ressenti ces éléments de la grande nature parce qu'on projette le geste très loin, on essaye de se sortir du petit, du serré et d'être dans des mouvements vastes et ça m'a aussi énormément aidé pour la peinture de faire de l'aïkido, d'être moi-même dans le mouvement. De chuter, de me relever. Enfin, maintenant, je suis vraiment un peu trop vieux pour en pratiquer, mais ça m'a vraiment énormément aidé à comprendre aussi la juste distance qu'on peut avoir et avec les gens et en même temps aussi avec ce que l'on fait. Cette juste distance, être dans... Si on est trop près, on peut recevoir le coup. Si on est trop loin, on est en sécurité. Enfin, c'est ça un petit peu. Si on est trop près, il faut pouvoir s'esquiver. Et la notion de combat, cette grande nature, oui, c'est par rapport à ce voilier, à cette tempête et tout ça, effectivement, il y a des liens.
Tout à l'heure, vous nous parliez de ce moment dont vous avez besoin dans l'atelier. D'abord, la délimitation de l'atelier, c'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel vous seul pouvez être au moment où vous allez travailler. Vous parliez de préparation, vous disposiez les peintures autour de vous. Enfin, tout ça ressemble fort à un acte d'art martial, comme le tir à l'arc tel qu'il est pratiqué au Japon, où au fond, la finalité, c'est pas tellement d'atteindre la cible, mais c'est tout ce qu'il y a avant, pendant, après. Oui. Et la finalité ultime, c'est de ne plus utiliser l'arc et de tout mentaliser.
Oui.
Vous pourriez en arriver là ?
Probablement que parfois j'arrive à ce niveau-là pour rire comme ça, mais parce que je prends aussi du plaisir à ne pas peindre.
Ouais. René Bury disait mes meilleures photos, je les ai jamais prises en fait.
Oui, mais c'est assez sincère, c'est-à-dire de peindre quand je fais un tableau, ça me passionne de pouvoir être avec ce contact-là. Mais de ne pas peindre, c'est très important aussi, je trouve, pour... Il faut les deux parties. Il faut qu'il y ait les deux parties. Il faut aussi... Il ne faut pas forcément toujours vouloir faire quelque chose, être dans le faire. Et, mais parfois aussi de ne pas faire, de digérer ce que l'on fait. C'est très important. C'est peut-être même plus important. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des énergies qui sortent.
Mais on ne peut pas ne pas faire sans avoir fait. Sinon, oui. C'est de la triche. Non, je ne peux pas dire, j'écris les romans les plus importants du siècle, mais dans ma tête, par exemple. Ça ne marche pas, n'est-ce pas, Flo ?
Oui, je suis une experte en la matière. Aujourd'hui. Oui, vous êtes tellement experte en rien. Exactement, experte en rien.
Non, mais alors, vous êtes vraiment dans cette... logique de l'art martial, quoi, finalement.
Oui, je suis très intéressé par l'aïkido.
Ouais.
Par le judo aussi, j'en ai pratiqué enfant, et l'aïkido dernièrement. Je suis vraiment très, très intéressé parce que on ne peut pas mentir quand on pratique de l'aïkido. Un mouvement, un waza que l'on pratique avec une personne, on peut l'imaginer, mais après, quand on le pratique physiquement, on a toutes les douleurs qui sortent, il y a tous les mouvements qui arrivent, il y a les problèmes de gauche et de droite, on n'arrive pas à...
La réalité, quoi.
Voilà, c'est la réalité. Et ça m'a aussi aidé par rapport à la peinture, parce qu'il y a aussi une réalité. Ça sort, ça monte, la peinture, elle se fait, elle est là, ou bien elle est brûlée, elle est morte. Donc c'est ce rapport à la peinture, c'est pas seulement justement peindre des petits bouts de tableau. Non, c'est de vraiment sentir l'énergie, la grande nature, se sortir de soi. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est un peu un travail un peu général comme ça de l'énergie de vie.
Mais vous dites il faut sortir de soi et d'un autre côté aller justement au plus juste de soi.
Ah mais parfois, souvent, les contraires sont très importants. L'infiniment petit, l'infiniment grand. On peut sentir ces éléments-là. On a besoin d'être tout serré dans son atelier, justement dans le silence et puis avec soi-même. Et puis on a aussi besoin, à un moment donné, d'être dans la grande nature, d'entendre le vent dans les oliviers, d'entendre les cascades, d'entendre le son des... Voilà, du ciel, c'est important d'être dans cette et d'avoir des contacts humains, d'être dans la relation. C'est le but final pour moi de l'art, c'est justement d'essayer de ressouder des contacts. C'est l'intérêt majeur de la littérature, de la musique, de la peinture, peut-être même de la science, je sais pas.
Vous dites en montrant vos œuvres. C'est ça, le contact dont vous parlez ?
Oui, à un certain moment, avoir la possibilité de, quand c'est mûr, quand c'est prêt, de pouvoir avoir un retour.
Oui. Alors, vous parlez de retour, mais est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes très friand de donner des explications sur votre travail, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir un retour, mais vous n'en dites pas plus, quelque part ? C'est-à-dire que l'œuvre, elle est présentée, non. Et chacun y voit ce qu'il veut y voir.
Oui, alors c'est plutôt ça, c'est Si j'ai un retour, je suis très content, mais je ne le cherche pas. Mmh. Je ne cherche pas non plus à donner un mode d'emploi à mes tableaux. On regarde et puis on voit ce qu'on voit. Mmh. Et parfois on voit une chose un jour, une autre chose un autre jour. j'essaye de voilà d'ouvrir aussi des questions, enfin dès que ça devient vivant, je reviens là-dessus, mais dès que ça devient vivant, un peu croquant, un peu croustillant, si un peu d'électricité comme ça, ça bouge. C'est pas quelque chose qui est statique, qui est là, et puis on le voit un peu après, peut-être un peu comme un meuble. Non, ça bouge tout le temps, et ça bouge avec notre réaction, nos émotions du moment. C'est un échange avec la peinture, la sculpture aussi, et probablement la musique aussi, selon dans quelle ambiance on est intérieurement, elle évolue autrement, on la ressent autrement.
Est-ce que par moment vous dites, vous savez, je suis un toxicomane au fond de mon travail, c'est-à-dire que vous avez besoin de cette vibration, vous avez besoin de peindre, vous avez besoin de montrer, et vous êtes en manque parfois?
Non, je n'ai pas de besoin. Non, parfois c'est un peu comme le lait qui monte, ça chauffe et puis à un moment donné quelque chose vient. Mais ce n'est pas un besoin.
Vous pouvez pas vous passer de peindre?
Très bien.
Ouais.
Je peux me passer de peindre, mais au bout d'un certain temps, ça revient.
Ah, quand même. Voilà. Donc il y a un désir quand même toujours chez vous.
Oui, voilà, exactement.
Une envie, un besoin quand même un peu.
Oui, c'est collé à moi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai. Mais ce n'est pas un besoin. Je ne me repère pas dans le besoin.
Sur la pyramide de vos besoins, ce n'est pas tout en haut.
Non.
Non, ouais. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut?
C'est ce que j'aime particulièrement, c'est entrer en relation. Voilà, j'aime bien les gens, j'aime bien voir du monde, j'aime bien rencontrer, j'aime bien. C'est comprendre, analyser un peu, partager, mais dans le vivant, dans le concret, dans le concret de l'instant, enfin un peu. Comme dans le monde du théâtre, enfin, où les gens, ça se passe ici et maintenant. Je me sens bien, j'ai besoin peut-être, j'aime pas trop ce mot, mais je me sens bien dans le contact avec les gens. Ouais.
Alors, est-ce que le théâtre, finalement, vous l'avez quitté, je dirais pas par dépit, mais est-ce que la peinture était plus forte que le théâtre, ou est-ce que vous auriez pu vraiment continuer dans le théâtre?
Non, la peinture s'est imposée parce que j'ai une partie de ma personnalité qui aime bien travailler seul. Donc, voilà.
Il y a le One Man Show, ça existe.
C'est
du public quand même. Non, mais je ne sais pas, vous aimez le contact, vous aimez les rencontres avec les gens, c'est le lieu idéal pour,
bien sûr.
Pour rassembler 500 d'un coup.
Oui, bien sûr. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé le théâtre de Peter Brook, parce que Peter Brook était un homme qui était très attentif à l'intelligence du texte, mais aussi justement à la relation, à la justesse entre le texte, le texte, et puis les temps, l'espace qu'il y a entre les comédiens, comment les gens vivent ce texte, et puis que ça soit vraiment très porteur par rapport au texte. Et c'est magnifique parce qu'on écoute on écoute tout de suite, on se perd pas quand on écoute, pour moi, du théâtre de Peter Brook.
Et c'est ce que vous recherchez aussi dans vos peintures, avec votre travail, l'attention immédiate, être focalisé sur ce que l'on a montré.
Ben, j'aimerais bien.
Ne pas être dispersé. Non, mais parce que là, ce qui me frappe dans ces travaux que l'on peut voir et que l'on verra d'ailleurs à Neuchâtel, c'est que tous les éléments sont très centraux, puis il y a beaucoup d'air autour. Alors que vos travaux précédents, la toile était intégralement remplie de détails de nature.
Oui. Ça a changé. Je ne peux pas vous répondre vraiment par rapport à cette question, mais beaucoup de choses ont changé. Et puis, c'est
le premier surpris
aussi de cette évolution.
Donc, vous arrivez à vous surprendre, ce qui est quand même bien.
Ah ben ça, je pense que c'est heureusement, parce que sinon, alors, on finit par bâiller en travaillant. Ça ne va pas, non?
Vous n'arrivez jamais à vous, Pierre-Philippe, de vous surprendre vous-même? En général, je me dis, mais qu'est-ce que je suis con,
Ça peut arriver.
C'est moi, là, je parle de moi.
Ah oui, d'accord, rassurez-moi.
Non, je parle de moi.
Je parle toujours de moi en bien quand je me parle à moi-même, pour me faire du bien un peu. Vous devriez essayer. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, Laurence, mais pas dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est surprendre soi-même. Oui, mais on surprend soi-même de tas de manières, me semble-t-il.
Oui, oui, oui. Mais ça veut dire que puisque vous partez sans plan prédéfini devant une peinture, Philippe Monod, ça veut dire que effectivement vous recherchez en permanence la surprise, ou que la surprise sera de toute façon là.
Oui, la surprise. Alors elle peut être heureuse ou pas, mais c'est vrai que c'est une surprise. Je recherche plus ce moment où je me dis je ne pourrais pas refaire ce tableau. Je n'arriverai pas à le refaire. Il sort de cette façon-là, mais je ne peux pas le refaire. C'est un peu comme les vagues dans la mer, elles se font, elles se ressemblent, mais on ne peut pas la refaire exactement. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui est comme ça, un moment unique. Hein. Et puis c'est ça, vraiment, oui, c'est le plaisir vraiment d'avoir fait ce nouveau travail pour moi maintenant.
Vous parlez beaucoup de nature, de mer, de palmiers. Vous avez déjà fait des portraits dans votre vie?
Oui.
Dessiné des gens,
oui,
peint des gens.
Oui, j'ai fait, quand j'étais plus jeune, des séries de portraits à l'huile, ouais. Avec les glacis. J'avais le livre de Xavier de Langlais tout le temps posé sur la table. Oui, j'ai fait beaucoup de portraits, des portraits de personnages en Inde, d'une tante en Corse, de dames, de messieurs, enfin de personnages. Et puis, oui, j'aimais beaucoup faire ça.
Mais
peut-être un jour
plus.
Je referai. Ah, oui. Je ne sais pas, on verra.
Allez savoir.
Oui.
Mais vous ne savez pas pourquoi vous avez arrêté de peindre des gens?
Ça fait partie de l'évolution. On arrive à des moments où on a envie justement de changer, de découvrir d'autres horizons, d'autres énergies. Et puis voilà, là on avance.
Cette exposition, je le rappelle, elle est signée Philippe Monod. C'est à voir la galerie d'Itosa et Maffé. C'est à Neuchâtel et ça commence le 1er septembre. Vernissage, 1er septembre à 17h. On pourra venir vous poser des questions. Les gens qui nous écoutent, là, qui ont peut-être envie d'en savoir plus ou qui ont des questions à vous poser, est-ce que vous leur parlerez facilement? Est-ce qu'on pourra venir vous poser des questions?
Mais bien sûr,
oui.
Bien sûr. Et puis, le 27 septembre à 18h, il y a une visite commentée en ma présence. Donc,
c'est vous qui commenterez.
Voilà, avec François Dietesheim et Patrick Maffay. Donc voilà, vous êtes les bienvenus.
Merci d'être venu nous voir, en tout cas, Philippe Monod.
Merci. Et puis je voulais aussi remercier Richard Garzaroli de m'avoir écrit ce texte qui est très très juste et fort pour cette exposition.
Voilà, qui figure dans la plaquette de présentation de l'exposition.
Oui.
Et que l'on pourra trouver sur place à Neuchâtel.
Oui, exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous,
à
vous tous.